Bienvenue, merci de venir à cette session. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens, pour être très honnête avec vous. Donc je m'appelle Sébastien Pertus, je fais partie de l'équipe des évangélistes de chez Microsoft. Donc vous avez mon adresse, mon blog et mon Twitter si jamais vous avez besoin. Et je suis accompagné de Guillaume.
De Guillaume, oui, exactement. Donc moi c'est Guillaume Brou, je suis responsable du pôle expertise à Itelios. En gros, c'est le pôle recherche et développement. Et j'interviens en tant que consultant, architecte et formateur, essentiellement. Donc pareil, vous pouvez retrouver mon blog, mon adresse mail et mon Twitter, si besoin.
Ok. Une première chose, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à donner des notes aux sessions. C'est quelque chose de très important pour nous. Ça nous permet d'un, de se remettre en cause si jamais on sort en faisant les barbeaux en disant « c'est bon, j'ai tout réussi ». Alors si jamais vous n'avez pas aimé, il faut le dire. Surtout si vous avez aimé aussi, il faut le dire aussi. Ça nous fait plaisir de savoir que la session vous a plu. Ça nous permet aussi de savoir pour l'année prochaine si on a besoin de remettre encore le sujet à plat ou si c'est bon, etc. Donc s'il vous plaît, allez noter les sessions. C'est assez important pour nous. Voilà. Et en plus, il y a des nombreux lots à gagner, donc il ne faut pas hésiter. Alors le sujet de la session, c'est le stockage des données avec sous WinRT et sous Windows Phone. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la session juste avant où on parlait de l'accès aux données distants. Nous, on va se focaliser sur le device, que ce soit sur Windows 8 ou sur Windows Phone 8. L'idée, c'est quoi? C'est de dire comment est-ce que je fais pour stocker des données relationnelles sur un device. Alors, c'est un sujet, moi, qui me passionne. Je fais ça depuis des années, surtout les problématiques de synchronisation qu'on va voir un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'est de savoir, avec cette nouvelle stack, comment est-ce qu'on fait pour sérialiser des données facilement et comment est-ce qu'on fait quand on a un vrai projet de la vraie vie et pas juste un Hello World à mettre dans un fichier plat. Comment est-ce qu'on fait pour stocker des vraies données pour pouvoir les requêter dans un vrai scénario business pour pouvoir après faire rapatrier à intervalles réguliers des données du serveur pour aller lire en local quand on est au fin fond de la savane et qu'on n'a pas forcément la 4G. Alors, je vais laisser la main à Guillaume qui va vous présenter une première partie qui est le stockage local et moi je reprendrai la main après sur tout ce qui est synchro.
C'est ça. Alors en fait, avant de vraiment parler de la synchro des données, je voulais faire un petit rappel sur le stockage des données justement sur Windows Phone 8 et sur Windows 8 parce que c'est le premier pas pour faire des applications qui fonctionnent en mode déconnecté. Donc vous savez que faire une appli connectée, c'est bien, mais une appli qui ne crache pas quand elle n'a pas de connexion, c'est encore mieux. Donc pouvoir utiliser ces données. Hop, je vais lancer ici. Hop, hop, hop. Donc pour stocker les données, on va utiliser tout simplement les API fournies sur nos différentes plateformes, donc Windows Phone et Windows 8. Pour stocker les données, on a à notre disposition un namespace, un espace de nom, qui est le Windows.storage, qui nous donne accès à différents espaces de stockage pour nos applications. Donc il y en a de trois types. Il y a le local folder, le temporary folder et le roaming folder. Alors, vous avez peut-être entendu parler sur Windows Phone 8 de l'isolated storage. Ça, c'était sur Windows Phone 7. Avec Windows Phone 8, ils ont adapté, ils ont fait une adaptation pour coller justement un peu plus au runtime Windows 8. Donc on a le même namespace sur Windows Phone 8 et sur Windows 8. Donc je vous ai mis à côté sur un petit post-it les différentes significations. En gros, local, c'est les données qui vont être stockées dans un espace de stockage propre à votre application. Le temporary folder, c'est des données dites temporaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système il va pouvoir, s'il a besoin d'un certain nombre de ressources, aller supprimer les données qui sont dans les temporary folders des différentes applications. Et le roaming folder qui est les données itinérantes, c'est-à-dire qui vont se déplacer en fonction de l'utilisation de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est synchronisé entre les différents devices où la même application est installée chez l'utilisateur. Donc un petit exemple rapide de code pour montrer comment... comme c'est très facile d'utiliser ce namespace, donc je récupère ici via Windows Storage le chemin de mon local folder. Et puis ici, tout simplement, j'ai récupéré un flux RSS que je vais aller sérialiser en XML dans un fichier que je vais stocker dans mon local folder. Donc ici, on va faire une petite démo que je vous ai préparée. Donc je vais juste m'asseoir pour la démo. Donc, je vous ai préparé une démo à la fois en Windows 8 et sur Windows Phone. Donc, cette démo, c'est tout simplement un lecteur de flux RSS, hein, tout bête. Je vais aller récupérer un flux RSS et le stocker dans mon local folder. Donc ici, j'ai un objet RSS item pour avoir qui représente un item de mon flux. Et puis, dans ma main page, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aller récupérer mon flux sur Internet. Et ensuite, bah, je vais avoir des méthodes pour sauvegarder et pour charger mon flux RSS. Donc si j'exécute ici tout simplement ma démo, je vais dans un premier temps donc aller chercher mon flux sur Internet et l'afficher tout simplement dans une petite interface. Donc là, c'est le mode de fonctionnement ici. Bah, j'ai récupéré mes données sur Internet et je les ai stockées. Maintenant, bah, si je rejoue mon application en simulant une panne Internet, c'est-à-dire que je ne vais plus aller récupérer mes données sur Internet, bah, si je... alors, évidemment, j'ai fait Start ici, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, parce qu'il ne va pas me lancer la bonne démo. Hop. Si je lance à nouveau ma démo ici, je n'ai plus Internet, mais j'ai quand même mon flux qui s'affiche, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas se retrouver avec une application vide ou une application qui crache tout bêtement.
Ça, c'est une technique qu'utilisent les applications installées par défaut sur Windows 8, qui sont les applications Microsoft Bing, par exemple. Lorsque vous lancez l'application, même si vous n'avez pas la connexion, vous avez le dernier article que vous avez téléchargé qui s'affiche. Au contraire, de nombre d'applications qu'on voit, où lorsqu'on lance la première fois l'application, elle charge. Et quand on lance la deuxième fois, elle continue à toujours à charger. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a eu les informations à un moment donné et qu'avec 4 lignes de code, on est capable de les afficher.
C'est ça, tout à fait. Et donc là, si on regarde, hein, c'est vraiment l'exemple que vous aviez dans le slide. En gros, je récupère... Alors, hop, je vais zoomer un petit peu. Je récupère mon local folder et puis bah, je vais écrire mon flux RSS dans mon local folder. Pour le récupérer, c'est pareil. Bah, je vais récupérer mon local folder et je désérialise mes objets. Alors, deux petites astuces. Je vais lancer aussi une fois peut-être l'application Windows Phone pour qu'on la voit, mais qui fait exactement la même chose. Donc là, j'avais préparé mon émulateur. Hop, donc là, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. J'ai mon flux RSS à l'intérieur. Les deux petites astuces que je vais vous montrer qui peuvent être utiles quand on développe ce genre d'appli, c'est de pouvoir aller explorer ce qu'il y a dans notre local folder. Donc sur Windows 8, vous connaissez peut-être hein, déjà. Ici, sur Windows 8, il suffit d'aller dans le répertoire de l'utilisateur et dans App Data, on va retrouver un dossier, donc App Data Local Package, tous les packages des applications qui sont installées ou déployées sur notre machine. Donc après, bah, il suffit de retrouver le package qui correspond à votre application. Donc soit vous lui avez donné un display name et vous pouvez le retrouver facilement. Moi ici, Daily Feed. Si vous ne connaissez pas le package correspondant à votre application, vous pouvez le retrouver dans votre manifeste. Ici, en allant dans Packaging, vous avez le package Family Name qui vous donne le dossier correspondant à votre application. Et à l'intérieur de ce dossier, on va retrouver différents répertoires qui correspondent à nos différents emplacements de stockage. Donc le temp state qui correspond au temporary folder, le local state qui correspond au local folder, et le roaming state qui correspond au roaming folder. Et ici, moi, j'ai utilisé le local folder. Donc dans local state, bah, je retrouve bien mon fichier que mon application a été écrire qui contient mon flux RSS, tout simplement. La même chose sur Windows Phone 8. Sur Windows Phone 8, il existe des petits outils avec interface graphique ou avec le SDK, on a un petit outil qui s'appelle ISE Explorer Tool, il me semble. Donc là, j'ai préparé un petit point bat qui me lance une ligne de commande pour aller extraire le local folder de Windows Phone. Et ici, donc, je récupère bien de mon émulateur, hein, ici, puisque je travaille dans mon émulateur. Je retrouve bien l'isolated storage de mon application Windows Phone 8 avec, encore une fois, mon flux RSS.
Et ça, c'est bien pour débugger.
Ça, c'est très bien pour débugger.
Vous allez connaître les répertoires par cœur.
Donc ça, c'était juste le petit rappel, puisqu'en fait, on va avoir besoin de ces espaces de stockage pour passer à l'étape suivante et utiliser, bah, en l'occurrence, ici, SQLite pour sauvegarder des données relationnelle, c'est-à-dire des tables avec des données, des structures, des liens entre les tables et nos données. Donc SQLite, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tout simplement une bibliothèque qui fournit un moteur de base de données, mais complètement indépendant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation, de configuration particulière, et on n'est plus dans un modèle client-serveur, on est vraiment en autonome, en fait. Et ce moteur nous permet, est accessible en langage SQL, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, sans configuration particulière. Pour utiliser SQLite, alors il faut savoir que SQLite, c'est vraiment le moteur de base de données vraiment très utilisé hein, dans beaucoup d'applications. Je pense notamment à Skype, qui utilise SQLite. Donc c'est un des plus populaires. Pour utiliser SQLite, rien de plus simple, il suffit pour Windows Phone 8 ou pour Windows 8 d'aller télécharger sur le site sqlite.org les bons packages à installer, ou tout simplement depuis Visual Studio, en allant dans Outils, Extensions et Updates, vous pouvez rechercher SQLite et installer pour la plateforme que vous voulez cibler. Une fois que vous avez installé SQLite pour votre environnement, il reste à configurer vos projets, donc soit Windows Phone 8, soit Windows 8, encore une fois. Et ça, tout simplement, en faisant une référence à la librairie SQLite et au runtime C++. Second point à prendre en compte pour la configuration, c'est de bien penser à utiliser le mode de compilation de la plateforme cible. En gros, vous n'avez plus le droit d'utiliser le mode de compilation AnyCPU, qui peut être utile à certains moments, mais ici, vous êtes obligé de préciser la cible.
Ça, c'est important pour le déploiement après sur le store.
Ensuite, SQLite. Alors, SQLite, vous pouvez l'utiliser directement. Si vous parcourez la doc, utilisez la librairie SQLite comme elle a été écrite.
Hein. En C++.
Ou alors, comment ?
En C++.
En C++, oui, tout à fait. Ou alors, utilisez des frameworks. Alors, il en existe deux qui sont très populaires. Le premier, c'est SQLite-net. En gros, en utilisant ce framework, celui-ci va ajouter deux classes à votre projet. Une première SQLite.cs et une seconde SQLite.async.cs. Vous l'aurez compris, il y en a une qui fonctionne en mode synchrone, l'autre en mode asynchrone. Et en gros, ce framework va nous permettre d'interroger notre base SQLite à la manière un peu ORM ou Link to Object. Donc directement, je vais avoir mes tables et je vais pouvoir faire des where dessus, des tri, des to list et compagnie. Alors attention, petite particularité pour Windows Phone 8, il est nécessaire d'ajouter un petit wrapper C++ au projet, donc c'est sqlite.dll. Donc vous pouvez la télécharger directement sur le site SQLite et l'ajouter à votre projet. Et également d'ajouter la directive use WP8 native SQLite en mode de compilation. Le second framework, c'est SQLite-WinRT. Donc là, c'est encore un autre wrapper SQLite qui est sous la forme d'un composant, d'une librairie à ajouter en référence à votre projet. Et là, elle offre une approche similaire plutôt à ADO.NET, c'est-à-dire qu'on va avoir directement des instructions SQL. Donc on va taper nos requêtes, un peu comme on le fait dans SQL Server, donc select, étoile, from, ma table, where, etc. Donc deux approches différentes, hein. Vous pouvez également mixer les deux. Idéalement, le mieux, c'est de choisir une approche et de l'utiliser. Mais les deux sont très bien. Comment ?
Non, parce que SQLite, la librairie de base que vous installez au tout départ, elle n'est pas PCL, donc non. Il y a des techniques pour avoir du PCL, mais c'est pas extraordinaire. Oui, il y a des techniques pour avoir du PCL pour pouvoir faire du SQLite, mais bon, c'est pas transcendant. Un avis personnel.
Donc, deux petits exemples. Le premier en SQLite-net, hein, juste pour vous montrer. Donc ici, on peut voir qu'on va se connecter à notre base de données en lui fournissant le chemin d'accès, donc qui peut être le local folder. Et ensuite, bah, je vais aller sur ma table ici, par exemple, Customer. Je vais aller tout simplement faire une requête where le Customer ID égale mon paramètre. Et après, bah, je vais pouvoir manipuler mes résultats. Avec SQLite ou InRT, ici, bah, on va avoir des requêtes SQL pures. Donc, c'est ce qu'on voit là-bas. Hein. C'est la même démo adaptée. Ici, bah, j'ai mon select name from people, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est une petite démo qui utilise SQLite-net et WinRT. Donc, tout simplement, bah, ce que je vais faire, c'est que ici, bah, je vais rebrander mon application de tout à l'heure, qui est mon lecteur de flux RSS. Alors ici, je l'ai repris en Windows 8. C'est exactement le même. Hein. Je triche pas. J'ai bien ici, pour l'instant, ma sérialisation XML et compagnie. Donc la première chose que je vais faire, c'est, on a dit qu'il fallait installer le package SQLite pour Windows, ici en l'occurrence Windows 8. Donc ça c'est par l'onglet Tools, Extension and Updates. Et donc moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer que ici ils sont bien installés. Donc pour Windows Runtime et pour Windows Phone. Une fois que j'ai fait ça, on a dit qu'il fallait ici ajouter les références à SQLite et au Runtime C++. Donc je vais aller ajouter références ici. Je vais aller ajouter mon Runtime C++ et ma DLL SQLite. Ah, tiens.
C'est normal parce que tu as un NICPU.
Ah oui, voilà, c'est ça. En plus, j'avais fait exprès de le laisser en NICP. Donc tout à fait, on a dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention au mode de compilation. Actuellement, mon application, elle compile en NICPU. Donc là, si j'essaye de la compiler, il n'est pas content. Il me dit bien que la plateforme cible NICPU n'est pas supportée. Donc il faut bien que j'aille modifier ici dans mon configuration manager. Alors c'est celle-ci exactement, que je lui dise bah, la plateforme cible. Ici, par exemple, je prends x86. Hop, cette fois, si je build, je n'ai plus l'erreur. Donc faire très attention à ça. Donc ensuite, la deuxième chose à faire, alors ici je vais faire une démo avec SQLite-net. Bah, la chose à faire, c'est que je vais ajouter le package nugget SQLite. Alors j'ai mon local repository ici où je vais aller directement installer SQLite. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, SQLite-net, bah, il rajoute deux classes à votre projet, hein, ici SQLite et SQLite Async, qui permettent de faire synchrone ou asynchrone, comme on veut. Ensuite, la seconde chose à faire, c'est d'ajouter dans nos objets certains attributs, comme par exemple aller lui dire quelle est la clé primaire de ma table. Donc ici, bah, je vais repartir de mon objet RSS item de tout à l'heure. Et en gros, ça va devenir une table SQLite. Donc cette table, elle va avoir ses différents champs et il faut que je lui indique la clé primaire. Donc je pourrais mettre un ID ou autre. Ici, je vais me servir du titre, même si ce n'est pas la meilleure chose à faire. Primary key. Hop. Hop, using SQLite. Donc là, ici, j'ai rajouté le titre en lui indiquant que ce sera la clé primaire de ma table RSS item. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je vais aller tout simplement remplacer mon code ici bah, de sauvegarde de RSS ici. Donc là, je le sérialise en XML. Je vais aller ici, hop, faire un save RSS item to DB. Donc j'ai préparé un petit code snippet. Alors il me manque évidemment les using. Hop. Donc ici, bah, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, hop, je vais aller construire le chemin vers ma base de données. Donc c'est le chemin du local folder et le nom de ma base de données qui sera rssitem.db. Et ensuite, bah, je vais, à l'aide de SQLite, créer une connexion sur cette base de données. Et ensuite, bah, je vais aller créer ma table rssitem. Alors ce qui est génial avec SQLite, c'est qu'ici, on n'a pas à s'occuper de savoir si la base existe ou pas, si la table existe ou pas. Si elle existe, il va la créer. Si elle existe, il va se connecter. Si ça n'existe pas, il va la créer et se connecter. C'est tout géré automatiquement. Donc ici, je crée ma table RSS item. Et ensuite, je vais insérer mes différents objets. Alors ici, j'ai été vérifié avant, est-ce que l'objet existe, je le mets à jour ou je le crée. Ça, c'est un petit peu comme on veut. Hop. Ensuite, sur le load, le chargement de mes objets, je vais faire la même chose. Je vais aller remplacer, je vais remplacer tout ça. Hop, load RSS from DB. Donc là, pareil. Je me connecte à ma base et je récupère les items qui sont dans ma table RSS item. Donc là, si je compile, hop, que j'exécute ma petite application, on va avoir le même comportement, théoriquement. Non. Effet démo. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est le lien internet. Non, puisqu'il faut qu'il les récupère au moins une fois pour aller les mettre dans la base. Comment?
Il a créé automatiquement la base.
Ah oui. Oui, c'est ce que j'ai.
Mais la première fois, il va récupérer les flux RSS, donc il devrait au moins les afficher. T'as peut-être plus de connexion Internet.
J'ai peut-être si, ça a l'air. Ah non, peut-être si.
Allez, effet démo, on recommence.
On va retenter pour voir. Mais...
Ah, ouais.
Voilà. Donc là, il récupère bien mon flux. Et si cette fois encore, je vais aller voir... comme on a vu comment explorer tout à l'heure mon local storage de mon application, donc dans packaging ici, donc là j'ai pas modifié le nom, le display name, donc c'est un petit peu barbare, c'est D08, ça doit être celle-ci, hop, local state, ici j'ai bien un rssitem.db. D'ailleurs je peux, ici, si je le branle, je vais le mettre sur le bureau pour que ça soit plus simple, je peux utiliser un petit outil, des petits outils. Donc, il en existe plein. Moi, j'ai pris SQLite Database Browser qui me permet d'aller explorer ma base de données SQLite. Donc, ici, on voit bien qu'il m'a créé une table RSS item avec mes différents champs de ma classe. Et puis, je peux aller browser ma table, donc regarder les données qui sont dedans. Donc, ça, c'est des outils, petits outils qui existent. Hein. Il y en a des gratuits, des payants. C'est pas mal pour débugger. Donc là, c'était SQLite-net. On aurait pu faire la même démo en SQLite-WinRT. Donc ici, j'ai récupéré une application de Sébastien qui est Fabricam avec une partie client Windows 8.1, une partie client Windows Phone. Et cette fois, à l'intérieur, on a tout simplement utilisé les deux. Mixer les deux. Hein. Si je regarde dans les packages qui sont installés, j'ai SQLite-net et j'ai le SQLite-WinRT. Et là, de la même façon, ici, si je regarde dans Data Model, Data Service, j'ai bien ma connexion, donc la base de données ici qui s'appelle FabricanDB, qui va être stockée dans le local folder. J'ai ma chaîne de... La connexion là-bas, si je fais un... C'est dans get... Enfin, ici, on peut prendre n'importe quel exemple, en fait. Ici, le get image, par exemple. En gros, Fabricane, c'est des customers qui déclarent des tickets. Avec les customers, ils ont des images associées. Donc ici, je vais aller récupérer mes images. Donc je fais un select étoile from image. Et j'itère dessus. Donc là, c'est en version SQLite-WinRT. Et j'aurais pu avoir la même version en SQLite-net avec une version ORM qui est d'ailleurs juste ici.
Ah, tu l'avais là.
Voilà. La version ORM, donc avec SQLite-net. Donc dans cette appli, vous avez les deux approches. Hein. Vous pouvez mixer, évidemment, l'idéal c'est d'en choisir un et de l'utiliser. Alors, autre petit point important ici, vous avez vu, en fait, j'ai une application Windows Phone et une application Windows 8. On a vu qu'il y avait qu'il existait SQLite pour les deux, des wrappers pour les deux, des assemblies. Donc l'idée qu'on pourrait se dire, c'est, on parle beaucoup de write less, do more. En gros, c'est écrire moins pour faire plus. Donc ici, bah, j'aurais envie de me dire, pourquoi je ne pourrais pas utiliser le même code pour mon application Windows 8 et Windows Phone 8. Alors la première idée qui vient à l'esprit, c'est de faire une PCL, comme on a parlé tout à l'heure, sauf que avec SQLite, c'est pas possible. Et puis pour d'autres contraintes également, par exemple, dans les PCL, il y a certains namespaces qui ne sont pas accessibles ou les namespaces qui sont différents d'une version à l'autre. L'autre technique qu'on peut utiliser, qu'on a utilisé ici pour notre application, c'est le partage de fichiers. En gros, si je regarde dans mon application Windows 8, j'ai dans DataModel une classe qui s'appelle DataService. Et si je regarde, donc c'est elle qui gère en gros les connexions à ma base de données et comment récupérer mes objets. Si je regarde dans mon application Windows Phone, dans DataModel, j'ai la même classe, mais on voit ici que c'est en fait un raccourci vers le même fichier qui est dans mon application Windows 8. C'est exactement le même. Si j'essaye de l'ouvrir, il me dit qu'il est déjà ouvert. Donc c'est le même. Ensuite, bah, comment gérer les différences entre Windows Phone et Windows 8, bah, ça va être tout simplement avec des directives préprocesseurs que j'ai ici, si je zoome un petit peu. En gros, dans ce cas-là, c'est juste des namespaces qui sont différents entre Windows 8 et Windows Phone 8. Donc je lui indique bah, que si je suis dans l'environnement Windows Phone, tu me branches ces namespaces qui sont là, sinon tu me branches les autres namespaces.
On vous filera le code de ces deux applications, enfin de toutes les applications d'ailleurs. Alors pour vous donner une idée, vu que c'est moi qui me suis tapé la classe là, donc vous aurez tous les exemples, que ce soit SQLite-net ou SQLite-WinRT, choisissez votre camp, ça sera le mieux. Et le plus compliqué dans ce cas-là, finalement, c'était le code de désérialisation de l'image qui est différent de WinRT et de Windows Phone, c'est tout. Tout le reste, c'est commun et c'est exactement la même chose.
Donc voilà l'application, hein, c'est ici des customers que j'affiche, et quand je clique dessus, je peux voir les différents tickets qu'ils ont déclarés.
Voilà, et ça, ça marche en local.
Et ça, ça marche en local, exactement. Avec une base SQLite embarquée. Hop, je vais revenir sur les slides. Je crois que c'est la partie suivante. Donc là, je vais laisser la main à Sébastien sur la synchronisation des données.
C'est moi ça ? C'est moi.
C'est toi.
Alors, donc on va parler un petit peu synchro, un sujet qui me tient à cœur depuis des années. J'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Et force était de constater que nous avons un souci sur WinRT, que ce soit Windows Phone 8 ou WinRT pour les applications Store. Il n'y a pas SQL Server, il n'y a pas SQL CE, il n'y a que SQLite. Donc, exit la réplication par fusion d'SQL Server, ça ne marche pas. Enfin, sauf dans un contexte B2B, mais ce n'est pas le sujet. Donc, globalement, la seule façon de faire, c'était d'utiliser un framework. Il existe le Sync Framework 2.1 qui existe depuis quelques années, qui a été fourni par Microsoft et qui est passé dans l'open source, que vous pouvez récupérer sur CodePlex. Sauf que ce framework a été créé bien avant l'avènement de Windows 8. Et quand des équipes l'ont arrêté pour le mettre dans l'open source, ça en est resté là. Donc, c'était le constat, pas de support d'SQLite et pas de support de WinRT ou Windows Phone 8 avec ce framework. Mais c'était déjà un bon point de départ. Alors, si vous l'utilisez tel que, vous pouvez le récupérer sur MSDN Code, vous pouvez faire de la synchronisation sur du Windows Phone 7, puisqu'à l'époque, ça existait déjà, sur du Silverlight, sur de l'iPhone, sur de l'Android, sur du BlackBerry, bref, sur de l'HTML5 avec une base de données locale. J'ai oublié le nom de la base de données locale HTML5 qui s'appelle
LocalDB.
Merci, IndexDB.
IndexDB, pardon.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette toolkit, par contre, fonctionne avec des flux XML ou JSON formatés avec le protocole OData. Bref, ça, c'était l'état des lieux quand le Sync Framework a été stoppé et mis à la communauté. Il existe une version pour WinRT que j'ai développée sur mon temps perdu l'année dernière. Ça m'a pris à peu près un an pour le porter. sur WinRT. Donc le fait, c'est quoi? C'est de prendre les sources qui étaient déjà disponibles et de supporter SQLite d'une part et de supporter Windows Phone 8 et WinRT. Tout ceci est accessible sur cette adresse syncwinrt.codeplex.com ainsi que les exemples que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous aurez tout là-bas, c'est documenté. J'ai même écrit des choses en français, donc voilà, il n'y a pas de souci, vous aurez ça sur mon blog. Donc globalement, on a quoi? On a le Sync Framework 2.1, pardon, le Sync Framework 4 et le Sync WinRT. C'était juste pour vous montrer, mais bon, globalement, vous allez voir qu'après l'utilisation, on offusque tout ça. Il n'y a pas de problème, c'était juste pour un petit historique. Alors, donc, avant de refaire les remerciements, je vais vous le faire en live et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire une application de synchronisation. Alors, je vais faire un exemple tout bête avec Northwind pour vous montrer comment ça marche et après, je vous montrerai des exemples de la vraie vie. Alors, pour ça, je vais me mettre dans un... J'ai plus d'écran. Ok, bougez pas. Mais de toute façon, depuis ce matin, j'ai de la loose, donc je suis abonné à Loose Magazine. Si vous avez suivi la plénière, vous savez de quoi je parle. Alors, Windows P... Yes, ok. Donc, je vais créer ici. Alors, globalement, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un projet web sur lequel on va faire la partie serveur et un projet WinRT, que ce soit Windows Phone 8 ou Windows 8. Je vais partir sur du Windows Phone 8, ça ira plus vite. Mais sur Windows Phone 8, c'est la même chose. Donc, on va faire un truc qui va s'appeler webserver.northwind. Alors, Northwind, je vais le copier-coller parce que je sens que j'en aurai besoin. CTRL-C. Donc, on va foutre là, c'est très bien. Donc, c'est blanc, on s'en fout. C'est juste pour exposer les données. Première chose, je vais rajouter l'ensemble des références nécessaires. Tout ça, c'est documenté. Je vais très vite. Il faut rajouter le Sync Framework que j'ai installé. Hop, 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 hop. Les fameuses DLL du framework par défaut. OK. Ça, c'est bon. Et ce que je vais rajouter aussi, c'est le fameux package NuGet qui va me permettre de le faire fonctionner, ce que moi, j'ai développé, qui est sur CodePlex. C'est donc sur NuGet. Et pour ça, vous faites un sync client.sqlite. Il va aller le récupérer sur NuGet. Et il a la bonne idée de savoir si c'est côté serveur ou côté client. Et il va récupérer... Alors, je vais faire ça online, évidemment, sinon ça ne va pas marcher. Sync client.sqlite. Si j'ai du réseau, voilà, j'installe. Ça, ça installe la partie serveur. À partir de là, j'ai tout installé, je peux commencer à travailler. Et après, ce que je vais faire une application Windows 8. Donc, on va faire ça ici, un truc tout bête, et on va appeler ça Northwind.w8. OK. Et de ce côté-là, idem, je vais rajouter un package NuGet, donc exactement le même. Donc nuget.gor, donc sync client. Donc là, ça va aller très vite parce qu'il va repérer que je l'ai en local. Hop, il l'installe et il installe l'ensemble des assemblies. Je ne vais pas oublier aussi de rajouter la référence à SQLite. Alors Windows, extension 3.8.2 et c'est OK. Pour la petite histoire, pour le wrapper que j'ai créé de synchronisation, j'ai utilisé SQLite-WinRT, la version ADONET Style. D'accord, c'est pour ça d'ailleurs que vous la retrouvez ici. Alors pour idée, vous avez ici le framework de synchronisation, ici la DLL d'accès aux données ADO.NET Style, et ici l'assemblée SQLite. Les trois assemblées côté client dont vous avez besoin. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je configure ma base de données. J'ai une petite base de données qui s'appelle Northwind. Je vais vous la montrer. Une fois que ça aura décidé de se lancer, on va se passer en authentification et je me connecte. Là, voilà, elle est ici. Elle est propre pour l'instant. J'ai quelques tables, catégories, customer, produits, etc. Donc après, il faut tout se taper. Il faut déclarer les entités, déclarer les tables, etc. Pour tout ça, vous avez un petit wizard que je vais vous montrer. Donc globalement, ce petit wizard, quand vous avez déployé le package NuGet, je voulais rajouter dans un répertoire. Donc là, vous prenez votre package NuGet que vous avez téléchargé. Ici, j'ai mis un répertoire tools avec un utilitaire graphique. Bon, je suis pas designer, j'ai fait ça en Windows Form, c'est pas très joli, mais ça permet de créer le fichier de configuration qui va être la base de la configuration côté client, côté serveur. Je vous montre un exemple, ça ira plus vite. Donc je vais créer ici un fichier que je vais appeler northwind.config. Je rajoute, je lui dis de se connecter à une base de données. Donc je vais l'appeler Northwind, la configuration. Ma base de données, c'est une base de données SQL 2012. Je passe en authentification intégrée, je teste, c'est OK, je sauvegarde. Hop, next. Je passe après, je vais décrire un scope. Alors un scope, c'est un ensemble d'entités que je veux récupérer. filtré, pas filtré. Je fais un scope global, toutes les entités de la base de données. Donc je vais appeler ça default. Default scope. Après, on verra qu'on a d'autres types. Enable bulk apply, ce qui est bien, c'est qu'on pourra utiliser les TVP, les table value parameters, pour ceux qui connaissent, de SQL Server, pour pouvoir faire des bulk insert. Bon, je go. Hop, excuse-moi, je vais un petit peu vite pour montrer un maximum. Donc je prends mon scope. Donc dans ce scope-là, je vais rajouter des tables. Donc je prends mes tables et je vais rajouter... Je me suis trompé, ok. Donc excusez-moi, ça veut dire que je me suis trompé sur... Alors je vais faire un remove... je vais faire un add, donc je recommence. Oui, j'avais pas mis le nom de la table, donc forcément, Seb, ça peut pas marcher. Voilà, point SQL 2012. Et là, je mets le nom de la base, ça ira mieux. Donc je reteste, c'est bon. Save, go, mon template. Allez, go, add. Et là, je devrais avoir les bonnes tables. Voilà, on va pas synchroniser master, c'est pas évident. Donc on va rajouter, alors je sais pas, on va dire les catégories... dans lesquelles j'ai... Alors, vous pouvez ne pas forcément synchroniser toutes les colonnes. Hein. Et après, on va rajouter les produits. Alors, évidemment, l'idée, c'est de tout mettre. Hein. Mais moi, je vais aller plus vite. Attention, il y a un ordre. Quand on crée des produits, il faut d'abord avoir la catégorie. Donc, d'abord, on crée la catégorie. Et après, on rajoute le produit qui pointe vers la catégorie. Inversement, quand on supprime, il faut d'abord supprimer tous les produits qui appartiennent à une catégorie avant de supprimer la catégorie. Donc, c'est pour ça que vous avez un up and down ici pour donner l'ordre. D'abord les catégories, après les produits. Next. Et tout ça, ça me génère un fichier. Un fichier XML qui va permettre de générer le code serveur et client. Et même de générer le code SQL. Ok. Ça, je le fais qu'une seule fois, c'est terminé. Je vais provisionner ma base. Parce qu'en fait, tout ça, ça va fonctionner sur de la base de trigger et de tables supplémentaires. Donc, je vais ouvrir ce fameux fichier de configuration. Donc là, il a tout repéré. Et je lui dis, provisionne-moi la base. Alors, vous voyez ma base ici ? J'ai une dizaine de tables. Et c'est tout. Lorsque je vais provisionner... Ça va rajouter des tables. Donc, c'est fait. Ça va rajouter des tables pour chacune des tables que je synchronise. Donc, ici, j'ai une table de tracking sur chacune des tables que je synchronise, plus deux nouvelles tables qui sont scope info, scope et scope config. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que dans... Et vous avez aussi... Alors, je vais juste quand même vous montrer ça. Dans les catégories, vous avez des triggers pour l'insertion, suppression, delete. Le tracking, c'est pour traquer surtout les lignes modifiées, évidemment, mais surtout les lignes qui vont être supprimées. Parce que quand je supprime côté serveur, il faut que j'aille supprimer côté client. Et si je supprime définitivement côté serveur, comment est-ce que je fais pour rapatrier chez le client quelle ligne je dois supprimer ? Ok, donc l'étape de tracking, ça permet de traquer les changements de ma table. Ok, côté client, eh bien c'est le même problème. Je vais générer du code. Donc je vais prendre mon fichier de configuration. Hop là, hop là, hop là, hop là. Hop, next. Donc là, je vais générer du code côté serveur. Et je vais générer ça dans le répertoire de sortie qui donc se trouve ici. Hop, CTRL-C, je ne me trompe pas. Et je vais mettre ça CTRL-V. Vous pouvez le générer en C# ou en VB, pas de souci. C'est du code DOM derrière. Le namespace, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je génère. Ça me génère deux classes, je vais vous les montrer après. Je reviens derrière et je vais faire la même chose pour le client qui est donc du SQLite. Vous voyez que vous avez Isolated Storage pour Silverlight, générique client pour, je ne sais plus, pour HTML je crois. Donc je passe ici, donc là le répertoire de sortie ça va être ici, CTRL-C, CTRL-V, hop, je fais ça en C#, il n'y a pas de souci, je génère et ça me génère encore des classes, je vous les montre. J'ai terminé tout ce qui est génération de code, côté serveur, côté base de données, côté client, il n'y a plus qu'à utiliser. Vous allez voir comment c'est easy peasy. Donc ici je vais faire afficher l'ensemble de mes fichiers et je les rajoute, donc ils sont ici. Ah non, je ne suis pas au bon endroit là. Ici, Northwind, je les rajoute. Ils sont ici. Hop, hop, include. Dedans, vous avez quoi ? Alors, je suis côté quoi ? Là, je suis côté Windows 8. On va commencer par le serveur, ça sera mieux. Show all file. Allez, sois gentil avec moi, Pépère. Hop là, include. Le voilà. Première classe, c'est en fait l'ensemble de vos entités. Elles sont toutes ici écrites, donc j'ai récupéré les métadatas des colonnes et j'ai écrit mes entités. Ok ? Rien de bien particulier. Après, deux, trois choses exotiques, mais rien d'extraordinaire. Et après, j'ai le SVC qui va me permettre d'exposer ces données. C'est la seule chose que vous allez avoir à faire côté serveur, c'est de le paramétrer. Moi, je ne connais pas forcément la chaîne de connexion. Puis en plus, les chaînes de connexion, vous allez en avoir pour la production, la pré-prod et le test, comme tout le monde. Ce que vous allez faire ici, donc je vais mettre ça, et ici, je vais mettre la chaîne de connexion. Si on fait ça propre, on met ça dans le web, dans le web.config. Hein. Moi, je ne suis pas propre. Je vais mettre ça directement ici. Data source égale point anti slash SQL 2012. Vous connaissez tous comment s'écrivent les chaînes de connexion. Catalogue égale Northwind. User ID égale SA. Password égale AZERTY31. Et c'est bon. Et j'oublie pas. Pardon ?
ID, ouais.
Ah, merci. Et ici, je mets le arrobase puisque j'ai un anti-slash. Bref, et le scope que je vais utiliser, c'est le default scope que j'ai écrit dans mon wizard. Des options supplémentaires qui sont notamment la policy de résolution par défaut, on dit que c'est le serveur qui gagne, et le format de sérialisation OData ou Atom, donc XML. Donc on est en OData JSON ou on a Data Atom, pardon. Côté serveur, c'est bon, je fais une petite vérification, View in Browser, si j'arrive à afficher une page XML, c'est que c'est bon. Ok, donc je récupère ça, CTRL-C. Plus rien à faire côté serveur. Et côté client, même combat. Donc j'ai déjà inclus, je crois, mes fichiers. Vous les avez ici. Donc c'est pareil. Donc là, j'ai resérialisé côté client les entités. Donc ça, c'est bien. Vous n'avez plus qu'à les utiliser maintenant. Elles héritent d'un truc qui s'appelle SQLite Offline Entity, peu importe. Et après, ici, vous avez un contexte. Ça ressemble un peu comme un DB contexte pour Entity Framework, par exemple. C'est quelque chose qu'on va utiliser qui va permettre de lancer la synchro. Donc je vous la fais vite fait. Alors, je ne sais jamais quelle est la page par démarrage de l'application. C'est Group Item Page. Hop, F12. Allô ? Ici. Donc on va se mettre là et on va se mettre ici pour faire sur le load state. On va faire une synchronisation. Attention, ça va faire mal. Var URI égale new URI de copier-coller. Copier-coller, voilà. Je crois que le synscope, ça ne sert à rien de le laisser, même si c'est pas grave. Ok, point virgule. Donc default scope point hop, context égale new context de l'URI que j'ai. Alors, le cache pas, c'est le nom de la base de données locale. Donc, Fabricam. Non, je suis sur Northwind, là, je crois. Northwind. Voilà. Et après, on va donner l'URI. OK. Context. On a dit qu'on était en format JSON, donc je vais le rajouter. Cache contrôleur. Bon, je connais par cœur, donc, mais vous aurez l'occasion de regarder un petit peu tout ça. Sauf que là, ici, égale. Hop, point. JSON, voilà, c'est bon. Donc 1, 2, 3 lignes de code. Et après, je vais faire un context.synchronize async. Tac, tac. Je vais mettre ça. Alors, en fait, ça va vous permettre de récupérer un objet qui sont des statistiques. Var stat égale await. Paf. Dans les stats, if stat. Point error, parce que vous pourrez récupérer l'erreur, vous faites ce que vous avez à faire, sinon vous faites aussi ce que vous avez à faire d'ailleurs. Si jamais ça a marché aussi. Différent de nul, hop, on peut faire un debug, sinon faites ce que vous voulez. Ok, 1, 2, 3, 4 lignes de code. J'ai pas besoin de créer la base de données, j'ai pas besoin de créer les tables supplémentaires côté client, enfin j'ai besoin de pas grand chose pour que ça fonctionne. Donc je vais mettre ici un point d'arrêt parce que j'ai absolument aucune idée de si ça va marcher, comme ça là, à l'intuite. Set a startup project F5 et on fait ça en live parce que coder en live c'est toujours plus sympa, surtout quand le speaker ça plante, surtout pour le speaker quand ça plante. Donc je suis ici, donc ça c'est ok. Mon URL, je déclare mon contexte, j'y passe le format, je fais un synchronize. Donc là forcément c'est asynchrone, j'y reprends la main. Et donc là, est-ce que j'ai une erreur? Non, ça c'est plutôt bon signe. Et est-ce que j'ai à l'intérieur de mes stats, j'ai récupéré 85 éléments. Et comme j'ai déjà joué la démo à la maison, je sais que ça a fonctionné. D'accord ? Donc là, j'ai bien réussi à synchroniser. Allez, merci. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas du flambi, évidemment, parce que bon, j'en vois au fond qui doutent, et qui n'ont pas applaudi d'ailleurs, je vais récupérer mon manifeste, comme vous l'a montré Guillaume, si je m'y retrouve. Le pack, donc, c'est le 767 blablabla. Donc moi, j'ai toujours un raccourci package, hein, parce que voilà. Ah ben ça, c'est bon. Il est ici. Northwind.db. Vous pouvez l'ouvrir. Alors moi, j'ai pour ça un outil qui s'appelle SQLite Studio, qui marche une fois sur deux, mais on va espérer qu'il marche cette fois-ci. Hop, c'est bon. Je vais donc rajouter cette base de données qui est ici pour vous montrer à quoi ça ressemble côté client, quoi. Et ça, c'est la même chose avec un Windows Phone, hein, juste pour information. Donc, hop, j'ouvre. Oui, d'accord, okay, je vais y arriver. Entrée, Northwind, OK. Et là, voilà, ma base de données avec mes tables. J'ai aussi des colonnes de tracking, évidemment, des tables de tracking. Ça, c'est embarqué sur votre application Store. Hein. Et vous avez ici, par exemple, alors là, je ne sais pas combien il y a de... Alors, pardon, c'est produits plutôt, où on voit les datas. Voilà, elles sont toutes là. Et vous avez aussi les catégories, où j'ai tout ici. Voilà, en plus avec des pictures, donc ça veut dire que ça marche plutôt pas trop mal. Ok, je continue. Donc une vraie application de la vraie vie, c'est Fabricam, qui est ici. Donc c'est la même chose. Alors je vous montre 2-3 choses supplémentaires. Vous avez ici, notamment, le fait de pouvoir faire du verbose error. Si vous ne faites pas ça, vous recevrez toujours un bad request si jamais vous avez une erreur. Ça c'est bien en production, mais en debug, c'est moins fun. Le use verbose vous renverra l'erreur complète côté serveur, sérialisée en JSON ou en XML. Ça permet de savoir quand c'est planté sur la chaîne de connexion, par exemple. Vous avez aussi le batch mode. Quand vous avez beaucoup de données à rapatrier, comme on est en OData et que c'est géré par défaut par OData, ça va trunquer les éléments par 2 mégas. Je vais donc recevoir des fichiers JSON de 2 mégas par 2 mégas, jusqu'à ce qu'il est terminé. Ça évite de récupérer un fichier de 30 mégas. Bon, par contre, si vous synchronisez 800 mégas, je ne suis pas sûr. Mais bon, sur une application Windows Phone, je ne suis pas sûr non plus que 800 mégas soit forcément très efficace. Et côté client, voilà à quoi ça ressemble quand on a une véritable application, data service. Voilà, globalement ici, ce que j'ai, ben, c'est exactement la même chose. Hein. C'est vraiment le même code que je vous ai montré, si ce n'est que je l'ai encapsulé et que j'ai mis ça dans une tâche. Encore une fois, ce code, vous l'aurez, vous pourrez le récupérer, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer ça. Si j'y arrive, on va m'y retrouver. Hop, il est ici. Donc, vu une browser, donc évidemment, elle est déjà configurée, la base de données côté serveur. Hein. Donc, ça fonctionne. Et après, côté client, je vais donc la démarrer. C'est un startup project. Go. Et évidemment, il faut qu'on teste si ça fonctionne, hein, forcément, sinon, c'est pas fun. Donc là, j'ai rien. Je vais donc synchroniser la base de données. Il va récupérer les données côté serveur. Et j'ai bien récupéré mes 33 éléments. Image compris. Vous pouvez évidemment modifier les informations qui sont derrière. Je vous propose donc que l'on modifie les informations côté serveur, juste pour le fun, pour voir si ça fonctionne. Donc je crois que c'est celle-là. On va prendre les tables. Alors j'ai aucune idée de ce qu'on va modifier, mais c'est pas grave. Edit 200. Alors on va y voir. Antenne not fixed. Voilà. At home. Peu importe. Hop là. Donc, antenne not fixed, elle est où? Elle est en bas à gauche. Non, c'est pas celle-là. J'ai les antennes partout. Là, ici. Donc, ici, là. Donc, je fais une synchronisation. Hop, synchronisation. J'ai bien récupéré un download et j'ai bien mon antenne alors, qui s'est barrée parce que j'ai pas fait un order by. Antenne not fixed, atom. Donc, j'ai bien récupéré mon seul élément. Là, je suis en JSON et je crois que ça faisait à peu près 8 bytes, je crois, un truc comme ça, la quantité de données. OK. Quelle heure il est? Il me reste 3 minutes. En 3 minutes, je vous montre vite fait autre chose. Pour aller plus loin, vous pouvez faire aussi du filtrage. Le filtrage, c'est quoi? C'est générer un template qui dit, eh bien, globalement, tu vas filtrer par customer. Je ne veux récupérer que l'ensemble des clients dont j'ai le rôle ou dont je dois aller fixer les problèmes. Globalement, ici, comment ça se passe? Vous avez ici un template sur lequel vous allez juste rajouter dans la configuration des filtres. Ces filtres, vous l'aurez configuré dans le fichier configuration. Encore une fois, je vous enjoins à regarder sur CodePlex les articles là-dessus, j'ai tout bien expliqué. Et côté client, parce que j'ai pas le temps de vous le montrer, et côté client, il suffit juste de passer à votre service l'identifiant. Alors, j'ai mis en dur évidemment, mais l'identifiant du customer. Ce qui fait que du coup, cet identifiant-là, si je lance l'application, alors il faut que je lance le serveur. Hop là, view in browser. Alors, je suis d'accord, je suis en exécution, ça peut pas marcher. Je vais pas y arriver, si. View in browser, donc là je lance mon serveur, donc qui n'est pas le même que tout à l'heure, puisque j'ai plusieurs exemples. Je vais mettre celui-ci en démarrage par défaut. J'exécute. Donc là, donc ça ok, j'ai dû faire un peu de debug tout à l'heure. Bon, j'ai déjà exécuté le sample, donc il est déjà synchronisé. Mais vous voyez, après la synchronisation, au lieu de récupérer l'ensemble de tous les customers, je n'ai récupéré que le customer qui est donc Giorgio. OK ? Donc ça permet de faire du filtre. Le filtre ne va récupérer que les éléments qui sont du customer 6 dans ce cas-là. Et dernier exemple, et j'en arrête là, et on sera à peu près bon, c'est de pouvoir eh bien, gérer les erreurs. Alors, je vous ai montré donc, le use verbose error, mais vous avez aussi des conflits. Que se passe-t-il, puisqu'on est en mode déconnecté, que se passe-t-il si moi, côté tablette, je modifie le titre et que côté serveur, la secrétaire qui a un back-end pour pouvoir aussi modifier dans son CRM le titre, le modifie en même temps. Donc, par défaut, ce qu'on va dire, c'est que... Alors, je dois l'avoir ici. Donc là, je suis... Alors là, je suis un peu paumé. Alors, attendez, je suis... Handle error. Donc, tout se passe côté serveur. Ça, c'est super bien. Tout se passe côté serveur pour la gestion des conflits. Vous n'avez pas besoin de redéployer côté client pour gérer le conflit. C'est côté serveur qu'on redéploie. C'est plus facile de redéployer un serveur que 800 clients. Globalement, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on va mettre en commentaire la résolution par défaut. Et c'est nous qui allons faire ce qu'on appelle un intercepteur sur le scope que l'on a précisé. Et on va dire, si jamais tu reçois un conflit sur la table ticket client, eh bien, je te propose de donner qui va gagner ou de faire un merge. Donc, si c'est un ticket client, c'est moi qui vais faire un merge et je vais rajouter ici dans le titre quelque chose de bien visuel pour qu'on le voie, ce qui est assez pratique dans une démo. Donc, ça fait que si jamais je modifie côté titre, côté client et côté serveur, à la résolution des conflits, je vais rajouter un titre, attention, vous êtes trompé, enfin, un de vous deux est en conflit. Okay ? Et si jamais ce n'est pas une entité de type service client, je dis que c'est le serveur qui gagne. Vous, évidemment, vous ferez une règle par chacune des tables sur lesquelles vous voulez gérer les conflits. OK ? Et ça, encore une fois, c'est assez simple à mettre en œuvre parce que vous n'avez pas besoin de le spécifier côté client, tout est fait côté serveur. OK ? Bon, je suis allé un petit peu vite pour vous montrer un petit peu tout ça. N'hésitez pas à aller sur le site Codeplex et puis à m'envoyer un mail puisque c'est moi qui suis un peu en charge de tout ça ces temps-ci pour avoir des réponses à vos questions. Je vais terminer la session pour rendre l'antenne là-haut, pour arrêter l'enregistrement. Et juste après, je prends vos questions et je vous remercie à tous d'être venus.